Interview.
1RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Nous allons parler des rencontres de l'écologie. Nouvelle édition, nouvelle année en 2019 avec Jean-Louis Vira et Claude Verret. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Radio.
Est-ce que ce serait bien quand même, Claude, de faire un petit topo pour les gens qui débarquent parce que l'on est allé au numéro X, croix V, bâton, non, un truc comme ça. Oui. Y en a beaucoup.
Écoute, oui, ce sont les 17e, donc ça, oui, ça s'est bien inscrit dans le paysage territorial et même un peu plus, puisqu'on peut dire que ça rayonne en Rhône-Alpes, et puis on a pas mal de gens qui viennent de Suisse, de Belgique maintenant, d'Espagne, donc c'est plutôt sympathique. C'est assez remarquable parce que sur un petit territoire comme le Diois, au fin fond de la vallée, en plein hiver, qu'on arrive à réunir, là il y a 140 rendez-vous, sur 12 jours, il y a 270 invités, pour être précis. On atteint autour de 10 000 personnes, 10 000 entrées. Donc ouais, c'est un beau challenge. On est super contents. On a la belle pêche. Et puis les rencontres d'écologie, qui s'appellent les rencontres de 10 maintenant, il ne faut pas l'oublier quand même. C'est un moment qui, dans ce territoire, avec les difficultés qu'ont certains autres événements, ça devient le festival du Diois et de la Biovallée.
Pourquoi l'hiver ?
Alors l'hiver, c'est quelque chose d'assez simple. D'abord, on n'a jamais voulu être en concurrence avec d'autres événements qui préfèrent des périodes plus fastes, voire estivales. Et puis aussi, à l'époque, quand on a démarré ça, on s'est dit, on va se retrouver entre nous. Et le mot rencontre, et vraiment, on est resté sur le mot rencontre, il est plus important pour nous que dit ou que écologie. Et donc, c'est pour que les gens se rencontrent. Et dans les 140 rendez-vous, tu imagines bien qu'il y a des choses qui dépassent largement le concept d'écologie, c'est-à-dire l'accompagnement des mourants, la naissance, des tas de choses qui font que ce sont des problèmes que les habitantes et les habitants du territoire rencontrent. Et on a voulu qu'à ce moment-là, en hiver, quand il y a moins de travail, je pense surtout aux agriculteurs par exemple, quand tout est gelé ou quand il y a de la neige, on puisse se détacher de son activité et venir discuter, débattre, se frotter, se frictionner, voire s'engueuler, bouffer ensemble, boire un canon. Et ça, c'est en hiver qu'on vous laisse faire ce petit plaisir.
Tu l'as cité presque, mais toutes ces différentes rencontres qui ont eu lieu ont eu des thématiques et ont permis d'aller beaucoup plus large que l'écologie. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire l'écologie ? Est-ce qu'il ne faut pas être comme ça dans un très grand cercle finalement ?
C'est pour ça d'abord qu'on a enlevé le mot écologie. Et on appelle ça les rencontres de dit. Et absolument tout ce qui fait que l'humain est en contact avec la nature, avec son environnement, avec les autres et avec lui-même, nous touche. Et aujourd'hui, c'est ce que Félix Guattari disait dans son bouquin « Les trois écologies », il y a 30 ans maintenant. Il disait pour arriver à changer de civilisation ou changer de société, il faut arriver à marier l'écologie environnementale, la protection des castors, des oiseaux, de la forêt, l'écologie sociale, les pistes cyclables, la démocratie participative, les énergies renouvelables et l'écologie personnelle, quelque chose qui a toujours été au cœur des rencontres de dit, mais qui est plus difficile à aborder parce qu'on a toujours une connotation ésotérique sur ce sujet-là. En réalité, la communication non violente, l'accompagnement des mourants, la naissance sans violence, s'occuper de nos anciens, c'est quelque chose qui est très fort au sein des rencontres de l'écologie. C'est très humain aussi et ces trois écologies se complètent fortement et c'est ça qu'on a au cœur de cet événement.
Jean-Louis Vira, à vous de parler un petit peu. Alors vous, votre rôle, puisque en fait souvent on a quand même Claude Verret pour parler des rencontres. C'est la première fois qu'on a un administrateur aussi également. Oui. Vous êtes le trésorier.
Je crois que ce qu'on peut dire d'abord, c'est que Claude, il est un peu irremplaçable parce que c'est quand même lui qui a. Si, fais pas le modeste. Il faut le dire. Il y a une inspiration et une persévérance de longue durée dans l'action. Dont la qualité des manifestations a fait la preuve. Donc je crois qu'il faut le souligner. D'ailleurs, et c'est un témoignage de ma part, je suis venu progressivement à Écologie au quotidien et aux rencontres. C'est parce que dans toute la période où je travaillais, puisque je suis retraité depuis un an, mais pendant toute la période où je travaillais, je tâchais de me libérer un petit peu, pas assez, pour participer, découvrir, on va même dire, les rencontres. Et c'est comme ça que progressivement, j'ai à la fois découvert la qualité des interventions. Je trouve qu'il y a une nourriture humaine et intellectuelle de grande qualité que beaucoup d'autres lieux peuvent nous envier. Hein. Et des fois, je me dis, les Diwan ne se rendent pas compte la chance qu'ils ont d'avoir une telle qualité, une telle densité au pas de leur porte. Hein, il faut le souligner. Donc, cette qualité. Et puis, en même temps, et c'est ça qui fait une force, parce qu'il y a une conjugaison, je dirais, c'est l'atmosphère relationnelle entre les personnes et entre des personnes parfois très différentes. Et donc, ça catalyse en quelque sorte des énergies. Et c'est comme ça, tout simplement, que en 3-4 ans, je me suis laissé mettre le doigt dans l'engrenage et qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas excessif de dire que je suis un bénévole très, très actif et très engagé. Et en plus, j'y trouve beaucoup de plaisir, donc c'est très bien comme ça.
Alors cette question sur les bénévoles, je voudrais qu'on la souligne un petit peu, parce qu'il y a aussi un autre phénomène qui est assez particulier, peut-être que vous l'avez mesuré au sein des rencontres de Dee, c'est que les gens, quand ils débarquent ici, ils viennent faire tout de suite le bénévolat, ça tombe bien, il y a les rencontres qui arrivent. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui est transformé? Est-ce que vous voyez comme ça des bénévoles mettre le doigt dans l'engrenage très très tôt? Quel est le brassage de ces bénévoles? Sont-ils nouveaux? Y a-t-il beaucoup de Diwa?
Alors, d'abord, et c'est vraiment important pour nous, sans les bénévoles, il n'y aurait pas d'événement. C'est eux qui construisent, et c'est eux les ambassadeurs de cet événement. On n'a pas, par exemple, on n'a pas de cabinet conseil, on n'a pas de cabinet de communication. Tout est basé sur le bénévolat, donc la bonne volonté. Alors, les bénévoles, on a regardé à peu près, il y a 50% de Diwa, 50% qui viennent de l'extérieur. Le bénévolat aujourd'hui, Anne le pointait hier soir, puisqu'on loge tous nos bénévoles, on est à peu près à 80-90 personnes, donc on va arriver au milieu des rencontres. Il y en a qui viennent 2-3 jours, il y en a qui viennent une journée. On va être à une centaine, 110 bénévoles. Donc c'est devenu un classique aujourd'hui. Alors le temps du bénévolat, pour nous, il a plusieurs aspects. Il a, bien sûr, créé cet événement, le construire, l'animer, l'agiter et lui donner toute sa capacité d'accueil et d'hospitalité que le Diwa a autrement, par ailleurs. Et puis, c'est un temps de formation. Parce que l'événement dure 10 jours à 10, 12 jours sur la Biovallée. Mais en réalité, il commence même dimanche pour les bénévoles et il va finir 2 jours après. C'est-à-dire, ça fait à peu près 16 jours. Et c'est un temps de formation. Un temps de formation, comment on travaille avec les autres, comment on prend des responsabilités, comment on communique avec les autres, comment, quand on est fatigué, on prend soin de soi et on va se reposer, comment... On participe aussi pleinement à tous ces rendez-vous pour s'enrichir et comprendre les mouvements dans notre société. Donc, c'est un temps aussi où on veut que les gens, ils apprennent des choses. Et après, il y a des bénévoles qui ont commencé à Dee et qui vont faire du bénévolat dans d'autres festivals. Et on trouve que c'est assez chouette.
Ce temps bénévole, donc, c'est pour aussi que l'événement se tienne. Mais il y a tout un travail en amont, notamment pour créer le programme que vous avez devant vous et qu'on voit un petit peu... dévoiler, en tout cas, montrer un petit peu l'orientation de ces 17e rencontres de Dee. Comment vous travaillez sur le montage du programme?
C'est vraiment, on peut le dire, un travail très, très collectif. C'est-à-dire qu'à partir du printemps, à peu près, chacun apporte non seulement ses idées, mais ses contacts. Et au fil de nos réunions de travail à peu près mensuelles, on façonne un programme tout en choisissant un thème. Mais le thème, il est ouvert. Il y a un thème, mais c'est toujours autour de tout ce qu'a Dee Claude que nous nous intéressons. Et donc, on peut dire qu'arrivé en septembre, début octobre, là, on a un programme qui est à peu près bouclé. Et donc, vraiment, il faut insister, c'est un travail collectif qui est fait dans l'écoute et la bienveillance. C'est une belle leçon, je dirais, de simplicité et d'humilité, mais aussi de convivialité.
Vous êtes beaucoup ?
On est entre 20 et 30. C'est-à-dire qu'il y a un peu un noyau peut-être d'une quinzaine qui va être là à chaque réunion et faire un apport très actif. Et puis ensuite, on a un deuxième groupe, au moins équivalent au premier, qui vient peut-être de façon moins régulière, mais qui apporte un coup d'œil un peu critique dont on a besoin. parce que chacun a un petit peu ses bébés, ses petites idées et souhaite les faire prévaloir. Donc ça permet d'équilibrer, d'homogénéiser, de tenir compte des attentes des uns et des autres. Donc c'est important de souligner ce côté collectif que moi, dans l'entreprise, pendant toute ma carrière professionnelle, j'ai pas autant connu que ça. Je l'ai connu à certains moments, mais dans une entreprise privée classique de petite taille, le caractère collectif de la réflexion et de la décision est beaucoup plus absent. Donc c'est vraiment une autre approche, un autre esprit tout à fait intéressant.
On peut s'intéresser à la méthode. Comment vous faites à 30, Claude?
Alors écoute, la première chose déjà... Et c'est ce que disait Jean-Louis, il faut pas imaginer d'avoir des idées toutes faites, voire des idéologies toutes faites. Quand les gens viennent, et ce n'est pas spécialement des gens qui sont adhérents d'ailleurs qui viennent, c'est un projet participatif, les habitantes et les habitantes de Die viennent, on le met souvent dans la presse, bon, ce soir réunion, et donc ce sont des gens du territoire qui apportent des idées. Là, j'ai quelqu'un de Maiglon qui m'a proposé pour 2020 de travailler sur la notion de l'héritage. L'héritage et inégalité. Ben, je trouve que c'est un bon sujet. Maintenant, moi, je vais chercher un écrivain ou un philosophe qui a travaillé sur la notion d'héritage pour avoir un moment sur l'héritage en 2020. Donc, chacun peut faire des propositions. La radio peut faire des propositions. Tout habitante et habitant peut faire des propositions. Donc, c'est vraiment un projet participatif. Après, au niveau de la conception, je crois qu'il y a une écoute vraiment attentive dans cette association que je retrouve pas. Je fais partie de pas mal d'associations que je retrouve pas dans toutes les associations. Disons-le franchement, je pense qu'on a... dans notre gène d'écologie au quotidien, on a une façon de fonctionner qui est, certains vont trouver le mot peut-être un peu dur, qui est très libertaire, qui est non hiérarchisée, qui est très horizontale, où toutes les paroles ont le même droit, où on a une écoute extraordinaire, où on prend soin de notre voisin et de notre voisine, où on essaye de valoriser ce que font les uns et les autres, tous les acteurs du territoire. Et je crois que quand on aide les autres, moi j'appelle ça la fraternité banalement, hein. Mais quand on aide les uns et les autres, quand chaque fois quelqu'un fait une belle proposition, au lieu de dire oui, ça, le critiquer, au contraire, on la valorise et on essaye d'en tirer le meilleur pour faire une proposition lors de l'événement. Et je crois que cette bienveillance, comme disait Jean-Louis, est fondamentale à l'écologie au quotidien.
Alors vous avez des contacts, Jean-Louis le disait aussi, le thème arrive, il émerge, on va dire, de vos prises de contact, ou est-ce que vous allez demander à vos contacts de se plier au thème?
Alors, le thème, ce sont les gens qui se réunissent, entre les 15 et 30 qui se réunissent régulièrement, qui le définissent. Je dirais que l'année passée, si j'ai bonne mémoire, c'était « oser la fraternité après Charlie ». Et les événements, ça transpirait de bon sens. Cette année, l'engagement, on a peut-être été bon sur ce coup-là, mais l'engagement avec ce qui se passe actuellement depuis le novembre-décembre, je crois qu'on n'est pas à côté de la plaque. Donc, voilà, je trouve que c'est...
Et pourtant, c'était en septembre.
Et c'était en septembre. Ouais, et donc, on avait déjà le titre avant. Mais je crois que là, on est vraiment en pleine prise avec l'air du temps. On est en pleine... on baigne comme des poissons dans l'eau dans notre territoire. Et on a pris le pouls du territoire. Et pour nous, c'était l'engagement cette année et s'engager ensemble particulièrement. Et on a mis ensemble parce que pour nous, s'il y a des démarches individuelles, il y a éminemment une démarche collective indispensable.
Et donc, ces contacts suivent ce thème-là, alors ?
Les contacts, alors, les gens font des propositions. Souvent, ils se rattachent au thème. Après, il y a de la diversité autour. Hein. Il y a des choses qu'on retrouve assez régulièrement ou irrégulièrement. Mais on essaye d'avoir des gens qui travaillent sur cette notion de l'engagement. Après, on va chercher des intervenantes et des intervenants qui ont fait ou qui ont écrit des bouquins sur l'engagement ou sur la fraternité, la solidarité, sur comment voir demain. Il y a beaucoup de choses, par exemple, autour de l'effondrement avec Pablo Servigne. Donc là, son dernier bouquin, c'est sur la façon dont on va s'engager derrière si ces conditions arrivent. Donc c'est vraiment, on essaye que le fil rouge tienne la route quand même.
Ces thématiques, là on a parlé de l'effondrement, mais être acteur de l'écologie comme ça et depuis longtemps sur les rencontres de Die, est-ce que c'est pas un peu décourageant?
Ben, je crois que ce qu'on peut dire, décourageant, non, parce que c'est la vie que les choses n'aillent pas vite. Hein. Alors, bien entendu que quand on est engagé, quand on est militant, franchement, les choses, elles vont pas assez vite. Hein. C'est évident. Mais quand même, il faut savoir prendre du recul. Et je me plais personnellement à le faire, à me dire, bon, voilà, quelle est la perception que j'ai aujourd'hui? Quelle est celle que j'avais il y a un an, par exemple? Est-ce que ça a avancé ou pas? Et là, c'est clair. Je suis même frappé, je dirais même qu'il me semble qu'on est dans un phénomène un peu d'accélération. C'est-à-dire que dans les prises de conscience, y compris chez des gens qu'on ne soupçonnerait pas, je, personnellement, je découvre, et je l'ai beaucoup découvert ces derniers temps, beaucoup de gens qui me disent « Ah ben oui, tiens, ça c'est intéressant que tu fais ça ». Justement, je me posais la question et ils m'ont surpris. Et c'est tout à fait symptomatique d'une évolution de la conscience collective qui laisse espérer qu'on puisse appuyer sur l'accélérateur. Et justement, grâce à nos actions, pas que les nôtres bien entendu, mais avec la multitude des actions que comme nous entreprenons, on peut espérer cette accélération. Et d'ailleurs, on peut le dire, on s'y emploie. On a décidé que pendant ces rencontres, on ferait tout pour nouer le plus de contacts possible avec d'autres mouvements similaires, en vue de coordonner nos actions, d'exister dans le paysage, de faire sentir à nos responsables qu'on commence à compter, et peut-être encore plus, de permettre à des individus qui jusqu'à maintenant étaient fatalistes et se disaient « bah, je ne peux pas faire grand-chose », se disent « ah bah tiens, oui, peut-être que moi aussi, je peux apporter ma contribution, ma goutte d'eau dans cet océan qui est en train de bouger ». Donc je trouve qu'on est sur une bonne trajectoire. Est-ce qu'elle sera suffisante? Difficile à dire.
On prend un tout petit peu de hauteur, tiens, ça me permet ça, tout ce qui est dit là, Jean-Louis Vira, mais l'écologie, certains pensent en tout cas que l'action qui devra être menée ne peut pas se passer d'un presque totalitarisme ou d'un radical virage qui va donc contraindre les libertés. On ose la fraternité, l'entraide, etc. Mais à un moment donné, passer le cap pour survivre, selon les collapsologues par exemple, ça va passer par quelque chose de peut-être rude. C'est pas ce que vous proposez non plus.
Non, c'est pas ce qu'on propose. Par contre, ce que les collapsologues détectent dans le mouvement d'effondrement à tous les niveaux, hein, de la biodiversité, des règlements climatiques, peut-être bulles financières, démocratie confisquée dans nombreux points de la planète, et peut-être des mouvements sociaux qui peuvent émerger dans tous les sens, comme ça se passe en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en Turquie, au Brésil et en France. Peut-être qu'on va avoir des surprises. Et peut-être qu'à certains moments, comme disait un philosophe allemand, des monstres vont apparaître dans cette transition. Donc, nous, ça ne nous étonne pas. Que ça ne nous étonne pas et qu'on puisse, comme au Brésil ou comme en Turquie ou comme en Égypte ou aux Philippines, avoir à un moment des moments très durs, voire le fascisme qui s'installe. Je le dis ça avec facilité parce que d'abord, c'est déjà arrivé et ça se passe dans d'autres pays. Ça peut être un moment extrêmement dur à traverser et ça peut nous arriver aussi. On n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Après, à nous à créer les conditions au niveau individuel et collectif pour répondre à ça. Quand Orban ou s'installe en Hongrie ou un autre en Pologne, il y a une chose qui est formidable, c'est la résistance du peuple par rapport à ces installations. Et peut-être, alors je le dis et je suis optimiste là-dessus, mais peut-être que c'est la condition obligée pour qu'il y ait une réaction de la société civile, qu'il y ait une réaction, une résistance. Et à un moment où nous, depuis 17 ans et même avant dans d'autres contextes, on cultive cette fraternité, cette solidarité, ce partage, cette entraide dont parle Pablo Servigne dans un de ses ouvrages, à ce moment-là, nous serons formés, nous serons rodés à la solidarité. Et au lieu de s'entretuer à la sortie du supermarché pour avoir de l'essence ou du beurre de cacahuète, à ce moment-là, on sera capable peut-être de partager, on sera peut-être capable d'avoir fait un jardin, on sera peut-être capable de covoiturer ensemble et on sera dans une autre vision qui nous permettront d'avoir cet apaisement sociétal qui est indispensable pour créer une société, pour créer une démocratie en définitive.
Prendre de l'avance donc avec les rencontres.
Oui, je me permets d'insister parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment et notamment au travers de certaines lectures. Malheureusement, je pense personnellement qu'on ne fera pas l'économie d'un passage par un populisme, peut-être un populisme dur, ce qu'évidemment je déplore. Et justement, j'entends m'engager pour éviter ce genre de situation. Mais bref, si, comme par le passé, au travers de la guerre et du rapport avec les résistants, on peut résister et j'irais sortir vainqueur de ces situations calamiteuses, on a là justement un choix personnel, éthique, intérieur, entre des logiques d'affrontement qui sont primairement les plus spontanées, les plus habituelles, et au contraire des logiques de construction, de solidarité, a dit Claude, d'entraide, pour reprendre le terme de Pablo Servigne, qui est largement déployé dans ses ouvrages. Et je pense que le défi, il est là. Et quand on voit comment un monde peut être dur, ce défi, personnellement, je pense qu'il est très fort. D'où l'importance de donner la plus grande dimension possible à l'état d'esprit qui prévaut dans une organisation comme Écologie au quotidien.
Les rencontres d'Eudi. Allez, Jean-Louis Viera, Claude Verret, on rentre un peu dans le programme. On dévoile quelques noms. Pablo Servigne a été cité, bien sûr.
Oui, alors dans cette notion d'engagement, il y a quelque chose qui nous est cher aussi, c'est l'humanisme. Alors l'humanisme tel que les Lumières l'avaient imaginé, hein. Et donc on a deux philosophes, on a même trois intervenants sur le sujet. On a Ricardo Petrella qui intervient le vendredi 25 avec Audrey Pulvar. Ricardo, au niveau de l'ONU, au niveau de la Belgique et de l'université européenne, s'est engagé depuis très longtemps sur cette notion d'humanisme, après avoir travaillé longtemps sur l'eau. Abdennour Bidar est un philosophe qui a écrit un bouquin sur retisser le tissu du monde et qui travaille beaucoup autour de la paix et de la fraternité. Et puis de mémoire, Dominique Bourg, qui vient de sortir un bouquin sur la Terre, qui est extrêmement précieux, je trouve, au niveau de la réflexion aujourd'hui. Donc cet humanisme qui nous oblige aujourd'hui. Après, sur des thématiques qui sont et d'actualité et plus classique, Marie-Monique Robin qui intervient sur le glyphosate, ben, on ne pouvait pas se dispenser, après tous les débats au niveau européen et français, d'inviter, après le film, sur le Roundup. Sur d'autres sujets, on a des personnes aussi qui sont importantes. Je prends le programme parce que je ne sais pas tout par cœur.
Oui, sur 140 intervenants.
Oui, sur 140 intervenants.
On peut déjà citer quand même le film Après-demain de Cyril Dion. Hein. C'est vrai que beaucoup de personnes ont apprécié le film Demain. Et donc, à la suite, c'est Après-demain. Et donc, on aura la chance de pouvoir visionner ce film, je ne sais plus quel jour. Mais enfin, c'est à mon avis un classique agréable et intéressant en même temps.
On aura Éric Lemaître qui va intervenir sur le transhumanisme. Alors là-dessus aussi, il y a vraiment des choses à dire. Ceux qui imaginent qu'on va sortir de cette crise ou de cet effondrement par la technologie, qu'a créé la technologie, nous sommes extrêmement critiques là-dessus. Donc je pense que ce sera un moment assez capital, des rencontres. Après, il ne faut pas oublier que dans ces interventions, sur les 140, il y a quand même une quarantaine d'ateliers pratico-pratiques. Comment créer des chemins dans la ville de Die, comment travailler ensemble sur certains sujets, quels projets vous pouvez offrir sur ce territoire ce vendredi 25. Il y a beaucoup de choses qui sont pour que les habitants de Die et du Diois s'investissent et arrivent dans leur quotidien, dans les 355 jours qui vont suivre l'événement, qui vont s'engager à transformer des choses dans leur quotidien. Donc il y a le mariage assez subtil de personnes qui sont des personnes ressources au niveau européen et au niveau national, qui apportent un éclairage critiquable, hein. On n'a pas d'idéologie.
Nous,
on
sous
a
la pas forme de conférences.
De conférences, d'ateliers. Souvent, on fait un atelier après une conférence. Et puis, à côté de ça, ou en même temps, on a quelqu'un, un acteur local qui vient apporter son éclairage, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, pourquoi on le fait, pourquoi on ne le fait pas. Et donc, pour nous, c'est assez important d'avoir ce mariage des gens de l'extérieur, de la ressource de l'extérieur et des acteurs locaux.
Oui, on va appuyer un peu sur ces acteurs locaux parce qu'il y en a vraiment beaucoup. La plupart des assos qui sont actrices tout au long de l'année sur les questions d'écologie au quotidien, pour pour paraphraser un peu, sont présentes et viennent voilà proposer parfois des carrément des choses qui sont en expérience ou en...
Oui, alors j'ai à l'esprit tout de suite me vient par exemple la controverse, et on l'a nommée controverse, sur l'éolien. Donc on a l'entreprise RES qui a des plusieurs projets d'ailleurs qui gère les éoliennes de Marsanne en ce moment même, où il y a eu un incendie pour ceux qui ont un peu d'informations, et puis qui sont en train de faire des tests sur un mât sur l'éoncelle. Ouais. Et donc, ils sont venus en toute bonne foi. Et de l'autre côté, on a invité aussi l'association de sauvegarde de l'éoncelle qui s'oppose au col de la bataille. Donc, on espère que de ça sortira quelque chose. Nous, on n'a pas d'avis prédéfini, sauf qu'on est contre le nucléaire, et ça pas depuis hier, et qu'on pense qu'il faut des énergies renouvelables. Après, tout ça se travaille avec les acteurs locaux, les maires et les militants, pour que ça ne se fasse pas n'importe où, n'importe comment, bien évidemment. Mais on espère que de ce travail pourra sortir quelque chose de plutôt intéressant, plutôt positif. Il n'y a aucun sujet qui ne nous fait peur. Et c'est le type même de controverse qu'on aime bien offrir au public pour qu'il se forge sa propre opinion.
Et ça, tout le monde veut bien jouer le jeu. Enfin, j'imagine que l'association qui est contre, elle est d'accord, mais l'entreprise, elle est d'accord.
Aussi. Elle sera présente, je l'ai encore eu au téléphone, jusqu'à ce qu'elle nous... Parce que plusieurs fois, ils nous ont fait faux bond. Hein. J'avais invité le directeur de Cruas sur le nucléaire il y a 3-4 ans. Après, il m'avait dit, bon, on vous enverra que le chargé de communication. Et trois jours avant, le chargé de communication, il n'était pas disponible. Donc, on est habitué aussi à ce genre de faux bond. Mais non, là, ils seront présents. Oui, il n'y a pas de... Bon, après, ça s'encadre, un débat, c'est pas un piège. Il n'y a pas de piège dans notre démarche. C'est vraiment un travail pédagogique, c'est un travail d'éducation populaire.
Oui, ce qu'on peut ajouter à titre d'illustration par rapport aux questions qui viennent d'être posées, c'est qu'effectivement, on a cette volonté d'être en échange plus étroit, plus fort, avec une part croissante de la population locale. Alors, par exemple, on aura deux réunions de 6h à 8h, plutôt de 18h à 20h. On a choisi cet horaire pour permettre aux DIY qui ont des contraintes professionnelles, ils sortent du travail, ils viennent, à 8h c'est fini, ils rentrent chez eux, c'est quand même plus facilement compatible. Et donc on aura donc deux réunions animées par Karine Melzer, l'une sur la vie du centre-ville, donc préparée en partenariat avec les commerçants, et une deuxième sur la mobilité. Et donc ce que je voudrais souligner, parce que c'est tout à fait symptomatique de l'état d'esprit qui est le nôtre, c'est que ces réunions, ce ne sont pas des réunions débat. Ce sont plutôt des séances de créativité collective où on va pouvoir se dire tout ce qu'on pense, que ce soit des bonnes, des mauvaises idées, peu importe, on empile le tout de telle façon à ce qu'on puisse le mutualiser et le mettre au service, à la disposition des acteurs locaux, que ce soit des acteurs publics, que ce soit des acteurs privés, peu importe, mais de telle manière à ce qu'on donne l'exemple de dialogue apaisé, hein, contrairement à ce que malheureusement on voit trop souvent. Donc ça, voilà un bon exemple. Hein. J'ai envie, par la même occasion, de souligner une initiative expérimentale qui, à mon avis, va avoir une grande portée. Nous avons fait un partenariat avec une association nationale qui s'appelle Avenir Climatique. Et nous avons toute une journée qui a pu être organisée grâce à la direction de la cité scolaire, aux proviseurs et aux proviseurs adjoints. Une journée pour les élèves qui s'appelle Carbone Collège. Et l'intérêt de cette journée, c'est qu'il va y avoir à la fois des échanges et des sensibilisations entre les élèves. Mais la deuxième partie va consister à s'approprier un outil en ligne pour faire son bilan carbone à la maison. Et partant de là, ça a deux intérêts. Le premier, c'est qu'évidemment, on fait son bilan carbone. Mais la deuxième, c'est qu'on se met dans une sorte de pédagogie ascendante. C'est-à-dire qu'on donne l'occasion aux enfants de 14-15 ans d'être vraiment des acteurs qui, dans un rapport d'adulte à adulte avec leurs parents, leurs frères et sœurs, vont pouvoir jouer un rôle. Ouais. Et donc, c'est une première en France. Telle que c'est parti, on sait déjà qu'elle est relativement prometteuse. Mais bon, la première, c'est ici, en grande partie grâce aux rencontres d'Audi.
Ça me permet du coup une autre question. Les festivals, on attend que le public vienne à soi. Vous sortez, c'est un des exemples. On sort même d'Audi par moment. Cette partie éducation auprès, par exemple, des entreprises de notre secteur, des élus. Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre comme forme ?
Eh bien, écoute, d'abord, tu l'as bien précisé, nous, on pense que cette dynamique pour changer la société, elle doit engager et conscientiser tous les acteurs du territoire, que ce soit les élus, que ce soit les entreprises, les associations ou les citoyennes et citoyens. Donc, nous, on essaye, dans la proposition qui est faite, d'avoir ces composantes de toute la société pour pouvoir vraiment faire des transformations sociétales. À un moment, par exemple, il y aura le maire de Pézenas qui viendra parler des villes de bien-être. Il veut lancer un réseau où, quelles que soient les considérations politiques, des villes s'engagent sur les déplacements doux, sur les énergies renouvelables, sur la démocratie participative, sur des sujets qui sont prégnants en ce moment, comme on a l'exemple de Saillant, par exemple, mais qui, aujourd'hui, peuvent bloquer sur des a priori politiques.
Et donc ils signeraient une charte tout ensemble.
Ils signeraient une charte, quelle que soit leur posture. C'est un peu comme ça s'est passé il y a quelques années sur les villes de santé, où il y a un moment, dépassant les clivages, on s'engage parce que c'est le bien-être des habitants et on n'attend pas d'avoir une mairie verte pour mettre les cantines en bio parce que c'est du bon sens pour tout le monde. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne réflexion. Après, sur la mobilisation, on ne peut pas faire sans les entreprises. Et on a des entreprises sur ce territoire. Je pense à l'Herbier, je pense à Heliopsis, je pense même maintenant à l'entreprise Lyotard qui fait un gros travail de recyclage des matériaux. Alors, bien sûr, c'est facile de dire ça, mais en tant que militant écologiste, nous, moi en tout cas, pendant 20-30 ans, les entreprises, c'était le mal. C'était le pire, c'est elles qui exploitaient la terre, qui exploitaient les ouvriers, etc. etc.
En polluant à mort.
Et pollueurs à mort. Et ouais. Pas consciencieux pour un rond sur ce territoire. En réalité, la prise de conscience dont parlait Jean-Louis Vira tout à l'heure, elle est prégnante aujourd'hui au niveau des entreprises. Il y a des choses qui se font à Heliopsis, qui se font à l'Herbier, qui se font dans l'entreprise de BTP Lyotard, qui sont vraiment intéressantes. Moi, je discutais avec Hervé Lyotard il y a 3 jours. Par exemple, l'écart des salaires est de 1 à 5 dans l'entreprise. Mais j'aimerais bien qu'en France et dans le monde, les écarts de salaire soient de 1 à 5. Ça changerait quelques donnes au niveau de l'inégalité sociale. Donc, il y a vraiment des gens qui font des belles choses. Il s'agit de le mettre en valeur, de travailler avec eux, de les reconnaître et de plus dans une critique acerbe où on s'est fait beaucoup de mal en militant sur des sujets qu'on a peu fait bouger, en définitive. On perdait énormément d'énergie à critiquer les uns et les autres. Aujourd'hui, quand on est dans la connaissance, plus quand tu as la connaissance, tu peux avoir la reconnaissance et le travail ensemble, je trouve qu'on est sur une autre dynamique territoriale. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans la société, je pense que ce travail de fourmi, de travail ensemble, de reconnaissance de tous les acteurs qui y sont présentés lors des rencontres est indispensable pour arriver à une vraie transformation de ce qui se passe sur les territoires.
Une personnalité bien connue disait « Peut-on se satisfaire de petits pas ?» Mais là, on a l'impression d'entendre que c'est déjà ça et ça permet à toutes et tous de se sentir concernés et d'augmenter sa conscience, finalement.
Oui, alors, ce que je viens de dire est valable pour le Diois, puisqu'on s'est centré sur le Diois, mais on va aussi sur d'autres territoires. On a 2 journées sur Eure et sur la Biovallée. Après, les rencontres de DSM, des gens sont venus du Var, dans la vallée du Gabot, ils font exactement les rencontres de l'écologie maintenant. Sur Annonay, ils font les rencontres de l'écologie. Sur Bruxelles, dans le parc Léopold, ils ont fait des rencontres en juillet dernier. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'autre part, Écologie au quotidien a créé un réseau des biodistricts européens. On est allé avec notre bâton de pèlerin pour voir ce qui se passait en Campanie, à Petrosino en Sicile, à Ranis en République tchèque, à Plâtres à Chypre, etc. Et à un moment, on a trouvé des gens qui avaient envie de transformer leur territoire. Souvent des territoires très pauvres, où ils n'avaient pas d'autre issue que d'imaginer quelque chose de nouveau. Ou par exemple, en Campanie, ils ne feront jamais du blé comme dans la Beauce ni dans l'Ukraine. Donc, toute la Campanie est en friche aujourd'hui, à peu près. Et quand ils ont vu que nous, on avait une politique pour installer des jeunes agriculteurs, qu'il y avait un retour à la terre, qu'il fallait les faciliter avec de l'achat de foncier comme le fait Terre de Liens, comme quoi ils avaient plein d'oliviers, de vignes qui couraient dans la forêt. Ils se sont dit, mais il y a un capital immense, il faut qu'on retrouve ce plaisir d'habiter ce territoire, l'amour de notre campagne, et on va refaire vivre tout ce que faisaient là nos parents et nos grands-parents avec d'autres outils. Parce que si la vigne et l'huile d'olive et les pois chiches se vendaient plus en campagne, aujourd'hui avec Internet, ils peuvent vendre en bio, y compris à la Carline, demain. Donc on est sur une autre dimension tout à fait intéressante.
Qu'est-ce que vous pouvez garder de chaque rencontre qui passe, à part tout ce qui est dans vos deux têtes et dans la tête de tous les autres ?
Ah ben ça va quand même beaucoup plus loin, d'abord parce que c'est vrai que on contribue à l'existence d'une grande famille en quelque sorte, hein, en toute simplicité, une grande famille qui d'ailleurs s'agrandit plutôt, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. Ça veut dire que quelque part on imprègne de plus en plus notre masse. Spirituel, hein, bien sûr, de valeurs, je l'espère, d'avenir. Ça nous interpelle, hein, parce qu'on a tous plein de choses à se reprocher sur le plan du comportement, hein, moi le premier. Hein, donc, mais précisément, le fait d'entretenir cet échange, de faire des choses ensemble tout au long de l'année, de préparer déjà le projet de l'année suivante, tout ça nourrit, hein, une multitude de liens, de ramifications entre nous et pas qu'entre nous, et également avec les autres, où nous sommes interpellés pour à chaque fois faire un pas, petit ou plus que petit, mais faire un pas à chaque fois en avant. Donc,
On pourrait écrire presque une encyclopédie de ces 17 ans.
On pourrait. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui naissent pendant les rencontres. Oui. Par exemple, le RADAR, le réseau d'aide d'accueil aux migrants, est né pendant les rencontres. L'écologie est une... Et donc, cette association autonome qui vit sa vie aujourd'hui fait un travail formidable sur le territoire. Après l'accueil à Lucandiwa d'une famille de 8 personnes, est en train, en ce moment même, de travailler avec les consulats en Irak, d'Erbil ou d'autres, pour accueillir une autre famille de 11 personnes. Avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'accueil sauvage, c'est-à-dire que c'est une structuration. On trouve du logement, on va trouver des formations, on travaille avec le lycée, avec les écoles, pour que les enfants... Aujourd'hui, le résultat sur Lucandiwa est formidable. Quand on voit les enfants qui sont les traducteurs aujourd'hui des parents pour faire toutes les démarches de santé administrative, scolaire et tout, bon, c'est formidable.
En plus d'avoir gagné un super cuistot. Hein.
En plus. Après, là, on a par exemple... on a une journée quasiment consacrée aux migrations. Et avec des invités qui sont pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas marquées non plus sur le programme. Il y a un guide de haute montagne de la vallée du col de Tende où on a trouvé récemment une personne qui était morte dans la neige, qui va venir témoigner du passage des migrants à la frontière italienne, avec Claire Lévy qui va nous faire une rétrospective un peu de ce qui se passe au niveau de l'accueil au niveau national. Et donc, on va avoir trois temps extrêmement forts, plus Maurice Bénin qui va venir aussi avec des textes de Chamoiseau nous agiter et animer ce moment. Eh bien, rien que ça, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'entre-soi. C'est-à-dire que ce territoire, il y a 100 ans, il avait à peu près 4 fois plus de population. Il faut qu'il s'ouvre, il faut qu'il compte, il faut qu'il fasse, qu'il arrose cette générosité et cette hospitalité qui est inscrite dans ses gènes, dans son histoire. En 39, on accueillait 400 Espagnols, a dit. Aujourd'hui, est-ce qu'on serait capable d'accueillir 400 migrants ? C'est donc... On fait des choses petites parce que on a aussi le souci politique. C'est-à-dire que si on amenait 400 migrants aujourd'hui, je voudrais voir les résultats des élections aussi européennes pour le Front National. Donc ça s'inscrit aussi dans la partie noble de la politique, c'est-à-dire faire un territoire, faire qu'on accueille avec cette bienveillance des gens qui s'inscrivent pas qui tombent pas tout de suite dans l'exclusion, mais que ce soit des gens qui participent à la vie sociétale, à la vie publique. Quand sont arrivés les Espagnols et les Italiens, deux temps forts du Diwa, aujourd'hui ils ont des entreprises, ils sont investis dans les conseils municipaux, ils sont investis dans le syndicalisme local. Ça a été une grande richesse pour ce territoire. Il faut le voir comme ça aussi. Ce territoire a besoin d'énergie nouvelle, de personnes nouvelles, de personnalités riches, et on travaille aussi là-dessus.
Oui, et puis on peut rappeler au passage qu'il y a 20% de gens nouveaux dans le Diwa chaque année. Hein, donc, c'est déjà bien brassé.
Oui.
J'aurais juste ajouté quelque chose à ce que dit Claude, parce que je crois que c'est important à titre de témoignage. Si on reprend le cas du Redar, il est tout à fait symptomatique, puis à une dimension qui est relativement modeste, donc c'est plus facile. Mais c'est vrai que c'est constituer une équipe d'animation de gens qui, pour la plupart, ne se connaissaient pas. Et aujourd'hui, il y a un vrai plaisir entre ces animateurs à se retrouver à peu près au rythme mensuel dans leur action. Donc d'un côté, chacun a la sensation de faire œuvre utile, c'est le moins qu'on puisse dire, mais de l'autre côté, d'être récompensé par le plaisir d'un être ensemble qui mérite d'être souligné, parce que autant que ça donne envie au plus grand nombre de sortir d'un individualisme un peu mortifère, en quelque sorte.
Claude Verret, Jean-Louis Vira, on parle des rencontres de Die, les 17e avec cette association Écologie au quotidien. On est à la radio Erdiwa, mais vous allez en faire une aussi avec RCF, c'est un gros plateau. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre dans le cadre de cette émission ?
Alors, il y a quatre temps de prévus, pardonnez le moi, je vais faire un petit peu de redite. Il y a quatre temps, puisque, bien entendu, il s'agit quand même de rappeler au public, et notamment au public, valentinois au sens très très large,
c'est une occasion,
on va dire,
ouais.
et Ardéchois, quel est l'historique et qu'est-ce qui caractérise les rencontres. On va avoir un témoignage intéressant d'une Parisienne, entre guillemets, qui ne l'est plus aujourd'hui, qui y est venue aux rencontres, a découvert tout ce que ça avait d'attractif, à tel point qu'au moment où elle prenait sa retraite, elle a décidé de venir s'installer à Die. Donc c'est une nouvelle citoyenne dioise et c'est un élément moteur au sein de notre association. Donc ça, c'est le deuxième témoignage. Ensuite, nous avons un témoignage justement d'une des représentantes du RDAR, du réseau Diwa d'aide aux réfugiés, qui va expliquer comment se sont développées des synergies entre associations qui ont débouché sur des actions spécifiques très concrètes, comme celle-là. Et enfin, on va parler de l'opération Carbone Collège, qui est assez balbutiement et qui est, comme je le disais tout à l'heure, promis vraisemblablement à un bel avenir.
Samedi 19, donc, et les rencontres commencent à partir de lundi 21.
Alors, les rencontres sont ouvertes au public vendredi 25 à 10h. Mais nous avons un temps 4 jours d'aménagement et 2 jours de déménagement.
Ouais.
Donc, on travaille 16 jours en réalité.
Oui,
mais
vrai.
Lundi, on accueille les bénévoles. On les accueille déjà dimanche au Martouret pour une journée de formation de 9h à 18h, 19h. Et puis lundi, on attaque à 9h, on attaque l'aménagement de la salle. C'est une salle qui est très difficile à gérer.
On va
le dire comme ça, elle n'a pas de personnalité. Hein. On va rester soft. Et donc, on a un gros travail de décoration, d'aménagement pour qu'elle soit agréable.
D'acoustique.
Tout ce que... Et donc, on a vraiment 4 jours nécessaires pour embellir cette salle et accueillir convenablement nos visiteurs.
Les programmes des rencontres de Die sont disponibles un petit peu partout. On commence à bien les voir. Il y a aussi un site internet.
Alors, écologieaucotidien.fr, facile. Sur le site, vous trouvez le mail et le téléphone s'il y a quelque chose de particulier où vous voulez vous inscrire. Je pense à des ateliers qui sont assez prisés, comme Pablo Servigne, justement. Et donc, vous pouvez nous envoyer autrement écologieaucotidien.die, comme la ville de Die, @gmail.com et communiquer avec nous. Il n'y a pas de souci. Il y a des programmes dans tous les points publics du territoire, hein, de Rhône-Alpes à peu près aujourd'hui. Et donc, oui, on essaye d'avoir une visibilité.
Merci à tous les deux pour cette présentation. Bon événement. Et puis, au moins à l'année prochaine pour les 18e.
Chiche.
Merci.
Merci à la radio. Merci à vos auditrices et à vos auditeurs.
Okay, the bird.